Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur l'économie marocaine.
Bonjour.
On s'appuie sur plusieurs articles d'EcoBusiness qui datent du 6 octobre 2025. Et franchement, ça dresse un tableau assez fascinant d'une économie qui bouge pas mal en ce moment.
Oui, il y a beaucoup de choses qui se passent, effectivement.
Alors, on va explorer plusieurs grands thèmes qui ressortent, hein. D'abord, ce retour remarqué du Maroc dans la catégorie Investment Grade.
Très important.
Ensuite, on va regarder qu'est-ce qui tire la croissance, l'inflation, comment ça évolue, le commerce extérieur aussi.
Oui.
Et puis, les gros enjeux sur l'énergie, on entend parler de Power to X, d'hydrogène vert, le gaz d'anchois aussi.
Des sujets brûlants.
Exactement. On parlera aussi du tourisme, comment il se transforme, de cette nouvelle économie du vieillissement, et puis l'efficacité pour les carburants. Et on finira par un petit tour rapide d'autres actus sectorielles.
Expert speaker.
Un programme chargé.
Oui. Notre mission, on va dire, c'est de prendre le pouls actuel, identifier les forces, les défis, et comprendre cette idée qui revient souvent dans les sources, que le sérieux, eh ben, ça finit par payer. C'est parti pour notre analyse.
Allons-y.
Alors, commençons par cette nouvelle qui a fait du bruit, le retour du Maroc en investment grade IG selon S&P. Les articles le disent bien, ce n'est pas juste une déco, hein.
Non, non, loin de là.
C'est le fruit d'une crédibilité bâtie, patiemment on dirait. Gestion des comptes publics, de la dette, politique monétaire constante. L'édito d'EcoBusiness le dit sans détour.
Le retour à l'investment grade n'est pas une médaille, c'est un contrat. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, ce contrat?
Expert speaker, c'est une excellente question, parce que l'impact, il est très concret, même si le mécanisme est, un peu technique. En gros, passer en IG, ça ouvre la porte à beaucoup plus d'investisseurs institutionnels.
Les gros fonds, les assureurs, ce genre de choses?
Exactement. Ceux qui ont des règles très strictes, des mandats prudents et qui souvent ne peuvent pas investir dans des pays moins bien notés. Et la conséquence directe, c'est que le Maroc peut emprunter moins cher.
Ah oui.
Le fameux spread.
C'est ça, l'écart de taux d'intérêt par rapport aux pays les plus sûrs diminue. Et pouvoir emprunter moins cher, mais aussi sur des durées plus longues, c'est crucial vu les énormes besoins d'investissement du pays. Santé, éducation, l'eau, le rail, expert speaker, voilà. La transition énergétique, la liste est longue.
D'accord, donc c'est moins cher pour financer tous ces grands projets. Mais les articles disent aussi que ce n'est pas un chèque en blanc. Quels sont les défis, les conditions pour que ça se traduise vraiment en progrès sur le terrain?
C'est le point central, oui. Le gros défi, c'est de transformer cette baisse du coût du risque en gain réel de productivité. Pas juste avoir un budget un peu plus confortable, quoi.
Et le Maroc a des atouts pour ça?
Oui, il arrive avec des cartes en moins. Un déficit budgétaire plutôt maîtrisé, une inflation qui s'est calmée après la flambée post-Covid, une banque centrale qui a su garder le cap, et puis on voit des signes de réforme qui avancent. La digitalisation, plus de rigueur dans la commande publique. Concrètement.
Host speaker.
Un hôpital qui marche mieux, une école rénovée.
Expert speaker.
C'est ça. Une usine plus productive.
C'est ça, le contrat de sérieux. Le marché y récompense la méthode, pas juste les slogans. Une phrase qui m'a marqué, le sérieux a un prix, il a aussi un rendement.
Host speaker. Et il y a des risques identifiés qui pourraient gripper la machine, non?
Effectivement. Deux talons d'Achille sont clairement cités, la vulnérabilité hydrique, le manque d'eau, et la dépendance énergétique. Un gros choc climatique ou une nouvelle crise sur l'énergie, et hop!
Ça pourrait tendre les finances et refroidir tout le monde.
Exactement. C'est pour ça que la crédibilité de l'exécution des projets est vitale.
Il faut livrer ce qui est promis. À temps, de manière transparente. Une autre phrase assez forte, le Maroc a gagné le droit d'accélérer, il doit prouver qu'il sait conduire vite et bien. Host speaker. Passons à la croissance, justement. Les chiffres du T2 2025 sont plutôt bons, 5,5%. Et ce qui est intéressant, c'est que les articles pointent surtout la demande intérieure comme moteur.
Oui, c'est vrai que ce chiffre est notable. Les sources l'expliquent par une reprise de la consommation des ménages, l'investissement privé qui repart un peu, et puis le BTP qui a des carnets de commandes bien remplis.
Et côté production ?
L'industrie et les services suivent, surtout le tourisme, la logistique. Le sentiment général qui ressort, c'est que l'économie a recommencé à tourner sur ses propres appuis.
Et tout ça avec une inflation qui ralentit ? C'est rare, non ? Oui, c'est qualifié de mélange rare et précieux, mais... Une croissance tirée seulement par la demande interne, est-ce que c'est tenable à long terme? Quels sont les freins?
C'est la question posée, oui. Cette dynamique a ses limites. Les freins structurels, on les connaît, ils reviennent dans les articles.
les lourdeurs administratives.
Le foncier, les permis, les litiges.
Voilà. Les délais de paiement aussi qui étranglent les PME. Et puis, ce besoin de faire monter l'industrie en gamme pour créer des emplois qualifiés, surtout pour les jeunes.
Ça demande des efforts de longue haleine, ça.
Absolument. Politique microéconomique patiente, concurrence loyale, lutte contre l'informel, justice commerciale plus rapide, digitalisation. Et au niveau budget, l'équilibre est fin. Tenir le déficit, mais continuer l'investissement public ciblé. Santé, éducation, eau, énergie. Pour faire des choix clairs et penser à la maintenance et surtout que ça crée des emplois de qualité.
C'est le nerf de la guerre.
Sinon, la productivité stagne.
On parlait de désinflation. Un autre signe de détente sur les prix est mentionné, un petit recul de l'indice des prix à la production industrielle, l'IPPI, en août. Bon, au raffinage, c'est juste une pause technique.
Disons que cette petite baisse des prix sortie d'usine, même limitée, c'est une bouffée d'air pour les entreprises après des années très agitées sur les coûts.
Ça s'explique par plusieurs choses. Baisse des coûts importés, matières premières, logistique.
La demande finale joue aussi.
Oui, et la structure des marchés. Mais surtout, cette accalmie, ça ouvre une fenêtre pour les entreprises pour travailler sur leur propre efficacité. Standardisation, moins de gaspillage, optimiser les process.
D'ailleurs, c'est cohérent avec ce qu'on voit sur le commerce extérieur.
Ah oui, justement, le commerce extérieur. Il y a ce point un peu technique des valeurs unitaires. En gros, le prix moyen de ce que le Maroc importe a baissé plus vite que le prix moyen de ce qu'il exporte, au T2 2025. C'est une bonne nouvelle, ça, non?
Pour un pays importateur net?
Sur le papier, oui, c'est plutôt positif. Si le coût moyen des importations baisse plus vite que le prix moyen des exportations, ça peut aider à freiner l'inflation importée. Et ça peut redonner un peu d'oxygène aux producteurs locaux qui utilisent des intrants importés.
Mais faut rester prudent.
Oui, ce sont des moyennes globales, très influencées par l'énergie. La tendance de fond que les articles suggèrent, c'est surtout une sorte de normalisation des conditions d'achat mondiales après le chaos de 2021-2023.
Logistique plus fluide, certaines matières premières moins chères.
D'accord. Et pour les entreprises qui exportent?
Elles?
Pour elles, c'est plus nuancé. Si les prix sur leur marché baissent plus vite qu'elles ne gagnent en productivité, leurs marges peuvent se tasser.
Donc il faut jouer sur autre chose que le prix.
Exactement. C'est là que les sources insistent beaucoup sur la compétitivité hors prix. Être irréprochable sur les délais, la qualité, les certifications, la traçabilité, le service après-vente.
Et pour l'État?
C'est une opportunité pour accélérer la simplification des procédures douanières, la dématérialisation, offrir un cadre stable aux exportateurs. L'enjeu clé, c'est de transformer ce gain de coût, qui est peut-être temporaire, en capacité durable.
Modernisation, meilleure gestion des achats.
Exactement.
Diversification des fournisseurs aussi, c'est ça. Oh, speaker, abordons maintenant un sujet absolument crucial, l'énergie. On parle beaucoup d'hydrogène vert, des technologies Power to X, utiliser du renouvelable pour faire autre chose, quoi.
Expert speaker. Oui, hydrogène, ammoniac, carburant synthétique.
Hot speaker. Les discussions à Marrakech, d'après les articles, montrent que l'industrie maintenant, elle attend du concret. Fini les grandes promesses.
C'est exactement ça. Le message des industriels est clair. On a besoin de visibilité, des dates, des kilowatts garantis, des prix, des contrats signés, un cadre réglementaire limpide.
Le Maroc a des atouts pourtant.
Énorme. Solaire, éolien compétitif, proximité de l'Europe, un certain savoir-faire industriel. Mais la crédibilité maintenant, ça se mesure en mégawatts installés et connectés. En décision d'investissement ferme.
Les sources pointent trois grands verrous. Lesquels?
Expert speaker. Premièrement, le juridique. Il faut un cadre clair, stable, sur la certification verte, l'accès au réseau, le foncier. Sans ça, les banques ne suivent pas.
Logique.
Deuxièmement, l'économique. La compétitivité, ça dépend pas que du soleil et du vent. Ça dépend de l'industrialisation, ingénierie locale, fabrication sur place, standardisation pour baisser les coûts.
Et le troisième?
Le commercial. Les contrats d'achat à long terme, les fameux off-take. Qui va acheter cet hydrogène vert ou ses dérivés? À quel prix? Pour combien de temps? Le marché se construit projet par projet, souvent sur des niches au début.
Ammoniac vert pour les engrais, e-méthanol pour les bateaux.
Voilà. Pas juste en affichant des objectifs en gigawatts.
Et puis à l'arbitrage des barres. Tout exporter ou développer aussi un marché local. La recommandation forte des textes, c'est prioriser quelques projets vitrines, bancables, livrables à court terme. Mieux vaut 3 unités de 100 MW livrées et raccordées que des annonces de 5 GW sans permis.
C'est clair. Et l'autre grand dossier énergie, c'est le gaz d'anchois au large des côtes, présenté comme un pont crédible pour la sécurité énergétique. C'est réaliste. Quelles sont les étapes?
Ce projet est vu comme une option crédible, oui. Ça permettrait de remplacer une partie des importations de gaz qui coûte cher, de sécuriser l'approvisionnement de certaines industries et de gagner du temps pour développer les renouvelables.
Mais c'est complexe à mettre en œuvre, j'imagine.
Très. Faut prouver les réserves précisément, finaliser l'ingénierie plateforme pipeline, obtenir tous les permis, convaincre les banques. Ça repose sur la visibilité des revenus futurs, donc il faut des contrats de vente solides à long terme, avec des acheteurs crédibles, l'ONE, de grands industriels.
Le prix doit être compétitif aussi, j'imagine.
Absolument. Idéalement, sans subvention publique massive et durable. Il faut aussi une régulation claire pour le transport du gaz. Et la logistique doit être fiable. Les sources mettent en garde. Faut pas aller trop vite, promesses intenables, ni trop lentement, rater l'opportunité.
C'est un équilibre délicat.
La voie suggérée, c'est aussi vite que possible et aussi lentement que nécessaire. Et la formule qui résume bien, un premier gaz robuste, même modeste, vaut mieux qu'un grand soir reporté. Si Anchois réussit, ça renforce l'image du Maroc comme un pays où les grands projets énergétiques aboutissent.
Changeons de secteur, le tourisme. Les chiffres sont bons, arrivées, recettes, mais les articles insistent, la vraie bataille, c'est celle de la valeur. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ?
Ça veut dire qu'il faut arrêter de juste compter les touristes. Il faut regarder ce qu'ils dépensent vraiment, combien de temps ils restent, s'ils viennent aussi hors saison, et si l'argent du tourisme se répartit mieux sur le territoire.
Il faut sortir de l'offre un peu carte postale.
C'est un peu ça. Passer du Bouriad, Tour au Souk, à des expériences plus spécifiques, mieux marketées et surtout mieux maîtrisées en qualité. Itinéraires thématiques, culture, nature, sport, gastro. Une hospitalité vraiment pro, du bien-être. Et pour ça, la formation, les normes, la maintenance, c'est la base. Essentielle.
Au speaker.
Et comment on fait pour attirer les gens toute l'année et un peu partout ?
Expert speaker.
Plusieurs pistes sont évoquées. Pour étirer la saison, programmer des événements, des festivals toute l'année. Pour mieux répartir, pas forcément ouvrir des hôtels partout, mais développer quelques micro-territoires cohérents avec des standards clairs, mobilité, eau, déchets.
Au speaker.
Et la distribution ?
Les plateformes en ligne.
C'est clé. Utiliser intelligemment les grandes plateformes, les OTA, pour la visibilité mondiale. Mais aussi développer la vente directe pour maîtriser sa marque, fidéliser les clients avec la data, le fameux CRM, et garder plus de marge.
Host speaker. Et attention aux infrastructures qui doivent suivre.
Expert speaker.
Point crucial. Eau, assainissement, transport local, faut que ça suive, sinon c'est la saturation.
L'économie circulaire dans le tourisme s'est présentée comme un calcul de rentabilité, pas un luxe. Tout ça demande de la méthode, une vision à long terme.
Host speaker, autre sujet important, mi-social, mi-économique, les seniors. Un chiffre du CESE est rappelé, assez frappant, plus de la moitié des personnes âgées n'auraient pas de revenus stables. Les sources en parlent de passer à une économie du bien vieillir. C'est quoi l'idée ?
L'idée, c'est de voir le vieillissement pas seulement comme un coût ou un problème, mais aussi comme une source de valeur économique et sociale. Les articles esquissent quatre grands chantiers. D'accord. Le premier, expert speaker. L'emploi. Faciliter le cumul emploi-retraite, partiel, le temps partiel choisi, valoriser le mentorat et lutter contre l'agisme.
Roast speaker.
Deuxième chantier.
L'entrepreneuriat des seniors. Beaucoup ont de l'épargne, de l'expérience. Il faudrait des guichets simples pour les aider à lancer des activités utiles. Aide à domicile, numérique, loisirs adaptés.
Host speaker.
Troisièmement, le sanitaire et social.
Oui, miser sur la prévention, adapter les logements pour éviter les chutes, mieux coordonner les soins et soutenir les aidants familiaux qui sont essentiels.
Et enfin, l'habitat.
Adapter les logements, sécuriser les déplacements, développer les services de proximité. Fondamentalement, ça demande un changement culturel, mais aussi une approche très pragmatique, basée sur les données, l'évaluation.
Dernier secteur en détail, les carburants.
Face à la volatilité des prix, l'accent est mis sur l'efficacité. Chaque litre économisé, c'est un gain.
Exactement. L'idée, c'est de construire une économie de l'efficacité pour amortir les chocs. Chaque litre non consommé, c'est de la compétitivité pour une entreprise ou du pouvoir d'achat pour un ménage.
Et comment on fait ? Quels sont les leviers ?
Plusieurs sont listés. La mesure d'abord. La télématique dans les flottes pro, ça peut faire 5-10% d'économie. L'optimisation logistique. Revoir les livraisons, mutualiser les tournées. L'éco-conduite, ça compte.
Le report modèle aussi.
Oui, investir dans le ferroviaire, la logistique multimodale. Une régulation prévisible du marché des carburants est aussi évoquée. Et puis, les choix des consommateurs. Quand il y a des alternatives, transport collectif, vélo, bon entretien du véhicule, et que les politiques publiques les rendent possibles.
L'urbanisme, l'info sur les coûts.
Voilà. Et enfin, l'efficacité technique des véhicules, des moteurs, des pneus, et la formation des conducteurs pros. Le message clé ? Arrêtez de subir le coût du carburant comme une fatalité. Le traiter comme un coût pilotable.
La formule est bonne, hein ? L'efficacité n'est pas une vertu austère, c'est une politique de revenu déguisé.
Bien ! Après ces focus, les articles signalaient aussi pas mal d'autres actus, peut-être plus ponctuelles, mais qui donnent le contexte. On peut en survoler quelques-unes.
Oui, bien sûr. Par exemple, le projet de loi de finances 2026, le PLF. D'après les sources, il chercherait à booster la compétitivité via des ajustements fiscaux, douaniers ciblés et de la simplification administrative. Ça colle avec l'idée de traduire la crédibilité macro de la note IG en mieux pour les entreprises. On note aussi Tangemed, qui continue sur sa lancée. Expert speaker, effectivement, trafic solide. Un vrai écosystème logistique performant. C'est un atout majeur. Mais attention, les sources parlent d'un risque de saturation si les capacités ne suivent pas la croissance du trafic. Toujours l'exécution.
L'anticipation. Autre géant, OCP, de très bons résultats aussi.
Oui, OCP profite d'un cycle porteur sur les phosphates et engrais. Très bon résultat OS1 2025. L'enjeu pour eux, c'est d'utiliser cette période faste pour investir. Productivité, diversification vers plus de valeur ajoutée et renforcer la durabilité, l'eau, le carbone.
Et il y a du nouveau sur la facturation électronique ?
Ça avance.
Oui, la phase pilote est lancée. C'est vu comme un potentiel choc de conformité pour beaucoup d'entreprises. Faut s'adapter.
Mais les bénéfices attendus sont importants. Délai de paiement plus court, meilleure collecte de TVA, traçabilité. Ça pourrait aider aussi contre l'informel. C'est structurant.
Et un dernier mot peut-être sur l'aérien. Royal Maroc.
Les sources parlent de l'expansion de son réseau. C'est jugé essentiel pour l'objectif du hub aérien de Casablanca en 2030. C'est lié au tourisme, à l'attractivité. Mais là encore, le succès dépend du concret. Avoir assez d'avions, les opérer et les aéroports qui suivent.
Toujours cette question de l'exécution, oui.
Voilà, je crois qu'on a fait un tour assez complet avec ces articles d'éco-business. Plusieurs idées fortes se dégagent, non ? Cette quête de crédibilité internationale, validée par l'IG, mais qui doit maintenant faire ses preuves sur le terrain.
Tout à fait.
Une croissance qui repart, tirée par l'interne, mais avec ses défis d'efficacité, de productivité, la transition énergétique, complexe, pleine de potentiel, mais ouf, des défis techniques financiers énormes.
Expert speaker.
C'est clair.
Et puis cet accent mis de plus en plus sur la valeur et l'efficacité.
Partout, tourisme, vieillissement, gestion des ressources comme le carburant, le thème du sérieux, de la méthode comme clé, revient vraiment tout le temps.
C'est exactement ça. Ce qui est frappant, c'est de voir comment toutes ces pièces, la note souveraine, les réformes micro, les grands projets comme Anchois ou Power to X, les stratégies sectorielles semblent s'articuler. Ça forme une vision d'ensemble. Mais comme le disent les sources, sans détour, la réussite de cette vision, ça dépendra énormément de la qualité de l'exécution au quotidien.
De la coordination entre les acteurs et surtout de la capacité à traduire le macro, la stabilité, en amélioration tangible pour les entreprises, pour les citoyens et en inclusion sociale. L'exemple de l'économie des seniors est très parlant là-dessus. Et pour nous laisser sur une pensée, une question peut-être, si l'accent est mis partout sur l'exécution, la méthode, livrer à temps, que ce soit un port, une centrale solaire, un service touristique, un accompagnement social, le véritable enjeu pour le Maroc, au fond, ce ne serait pas de transformer en profondeur sa culture opérationnelle, c'est-à-dire ancrer durablement, à tous les niveaux, une culture de l'efficacité, de la fiabilité, de la mesure des résultats. Voilà une question à méditer. Merci de nous avoir suivis pour cette analyse.
Merci.